Cinquième partie. Voyage au centre de la Terre. Chapitre 22. Diego. Il est 7h15. Il fait froid en ce matin nuageux de décembre. Chacun de nous porte sur son dos son équipement de camping, de quoi manger pour 3 jours, et l'appréhension de ce qui l'attend. C'est le moment pour Hansen de nous révéler la teneur de l'épreuve suivante. J'ai l'impression d'avoir en face de moi un ersatz de Denis Brognard exposant le prochain défi de Koh-Lanta. Dans les heures qui viennent, vous allez expérimenter la résolution de problèmes et la prise de décision en environnement extrême.
On va devenir les coiffeurs officiels de Donald Trump ?
Cette remarque de Nabila était tellement spontanée que même Ted a éclaté de rire. Il reprend. Je voulais évidemment parler d'un vrai environnement extrême, comparable à une navette plongée dans le vide intersidéral. Un lieu où les risques sont grands et la sécurité essentielle. Est-ce que l'un d'entre vous connaît le programme CAVES ? Là, bizarrement, personne ne rit plus. Rien que le mot nous fait frissonner. Koum lève timidement la main et Hansen le laisse expliquer.
C'est un entraînement d'astronautes qui doit vivre déconnecté du monde extérieur dans un réseau souterrain, il me semble.
Exact, merci Koum. CAVES, c'est un programme qui réunit des astronautes ne se connaissant pas, issus de toutes les agences spatiales. Il y a des Européens, des Russes, des Américains, des Chinois, des Japonais, et tout ce petit monde passe 6 jours sous terre, en autonomie. À votre avis, quels sont les points communs entre une telle expérience et la vie en orbite ? Cette fois, c'est Alna, de loin la plus expérimentée en matière de spéléologie, qui répond.
Il y en a plein. Il faut se faire confiance, collaborer pour se déplacer sans se mettre en danger. Il faut également apprendre à vivre dans un environnement où on perd la notion du temps. Dans une grotte, c'est l'obscurité permanente, tandis que dans l'ISS, c'est l'alternance jour-nuit incessante. Et puis, bien sûr, il y a l'isolement, les communications limitées et l'absence de secours avant des kilomètres.
Merci, Anna, pour ce résumé. Oui, Bérénice.
Et donc, on va aller camper dans une grotte.
Dans la Cueva del Infierno, pour être précis, la grotte de l'enfer. Hansen a prononcé le nom avec une grosse voix théâtrale. Chacun reste silencieux, imaginant peut-être, c'est mon cas, un décor digne de Stephen King. Rassurez-vous, rien de maléfique là-dedans. Le nom vient simplement de l'obscurité totale qui y règne. Il s'agit de l'un des plus grands tunnels de lave au monde. Une merveille de la nature. Il sourit. Et nous sommes suspendus à ce qu'il va nous apprendre. L'entrée de la grotte est située dans le nord de l'île. C'est un labyrinthe de 18 kilomètres, formé il y a 27 000 ans à la suite d'une éruption. Avec, fait exceptionnel, des galeries sur 3 niveaux. On y trouve des précipices, des terrasses latérales, des lacs souterrains et de nombreuses ramifications. C'est un lieu passionnant à découvrir, d'autant qu'il reste des passages vierges de toute exploration humaine. Je connais bien l'équipe qui gère la grotte, j'y ai moi-même effectué 2 expéditions. Ils ont accepté que vous puissiez y vivre 2 jours et 2 nuits. Hansen nous laisse digérer l'information.
On va donc passer littéralement 2 jours en enfer, quoi.
Oui, Nabila. Bon, c'est quand même un enfer organisé. La grotte étant une réserve naturelle protégée, ses 2 premiers kilomètres sont ouverts aux visites guidées, donc aménagées. Et vous aurez à votre disposition une carte des 10 premiers kilomètres sur laquelle nous vous avons indiqué, au kilomètre 7, un espace plat et sec où vous pourrez installer votre campement.
Pardon, Ted, mais... vous ne venez pas avec nous ?
C'est un Axel légèrement stressé qui vient de parler. Je vous accompagnerai jusqu'à la grille de séparation avec l'espace public, que je fermerai à clé avant de partir, afin d'éviter toute intrusion. J'attacherai à l'un des barreaux un téléphone qui vous permettra de m'appeler en cas d'urgence vitale. En plus des tentes, de la nourriture et de l'eau que vous portez déjà, nous vous équiperons à l'entrée de la grotte avec le matériel de spéléologie, les lampes frontales, les caméras GoPro et des batteries suffisantes. Des questions ? De nombreuses mains se lèvent. Oui, Anna.
Y a-t-il des passages dangereux, parois abruptes, descentes en rappel pour les personnes n'ayant jamais fait de spéléo?
Pas avant le camp de base. Ensuite, oui, il pourrait y en avoir. Et ce sera à vous de décider. Soit, Anna, tu entraînes les moins expérimentés aux rudiments qui leur permettront de progresser plus loin dans les galeries, soit vous délimitez les périmètres en tenant compte des aptitudes de chacun.
Les périmètres ?
Oui, pardon, Diego, je ne vous ai pas décrit votre mission. Il ne s'agit pas d'une visite touristique. Vous êtes des scientifiques, alors autant que votre séjour dans la grotte soit utile. Vous devrez recenser, cartographier et photographier la faune, la flore et les inscriptions murales que vous rencontrerez. C'est un travail long et fastidieux que plusieurs équipes ont déjà entamé, mais pas au-delà du camp de base. Puisque vous ne pourrez évidemment pas explorer la totalité de la grotte, à vous de définir ensemble votre périmètre d'action et votre rythme. Hansen nous explique ensuite que la grotte a servi d'abri ou de cachette à toutes sortes de populations au fil des siècles. Familles fuyant des persécutions, pirates, contrebandiers, explorateurs comme nous. Cette aventure est très enthousiasmante. Mais j'ai besoin de lui exprimer mes doutes sur ma capacité de la mener à bien. Sa réponse ne se fait pas attendre. Je crois, Diego, que tu connais parfaitement tes limites. Je t'ai vu à l'œuvre. Je n'ai aucune inquiétude. Tu trouveras ta juste place et tu te rendras vite compte que ta prothèse n'est pas plus une limite que les crispations ou les peurs de certains de tes coéquipiers. C'est au tour de Nabila de prendre la parole.
En parlant de peur, à quelle faune allons-nous avoir affaire ?
Surtout une faune morte, des fossiles d'animaux déjà éteints, tels le rat ou le lézard géant. Mais vous rencontrerez aussi tout un tas d'espèces troglophiles, qui ne vivent qu'en milieu souterrain, dont certaines découvertes récemment comme Loboptera subterranea, alias la blatte sans yeux. Un rictus de dégoût parcourt l'assemblée. Je ne suis pas particulièrement sensible à ce genre d'insectes, mais l'idée de me retrouver sous terre face à un nid de blattes sans yeux est assez peu appétissante. Tout comme la réponse d'Hansen à l'interrogation de Bérénice sur l'hygiène corporelle. Il s'agit de 2 jours et 2 nuits seulement, alors vous vous passerez de douche. Vous savez, dans l'espace on se lave à l'ancienne, avec des serviettes humides et du savon sans rinçage pour économiser l'eau. Alors si 2 jours d'hygiène approximative vous rebutent, vous devriez sans doute reconsidérer votre projet.
Et pour les toilettes ?
La question émane de Côme, mais tout le monde se la posait. Vous avez de la chance, j'ai demandé du grand confort. On va vous fournir un bac de 1 mètre cube qui fera office de toilette sèche. Il vous faudra simplement le transporter à l'aller et au retour. Il y a encore des mains levées, mais Ted décrète qu'il est temps de se mettre en route. Il répondra à quelques dernières interrogations sur le chemin, mais ensuite nous devrons trouver les réponses par nous-mêmes.